Voilà, on va ouvrir la parole. Dans l'Épître aux Hébreux, tout à l'heure, dans le don spirituel que Marcelin a apporté, c'était exactement la pensée que j'avais, et peut-être même la personne à qui le Seigneur s'adressait a eu ces derniers temps, et ça peut se comprendre, des pensées obscures, voire des pensées de suicide. Mais lui, il a donné sa vie, lui, il est mort pour que nous vivions. Alors, abandonnez ces pensées, laissez le Seigneur faire son œuvre. On va donc dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 12. Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12. Et on va finir, très probablement ce matin, ce que nous avons médité concernant les changements dans nos vies, le fait que nous sommes en devenir, et on retournera au temps de la Genèse. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il y avait une perspective qui s'est compliquée de par le péché, mais qui demeure la même perspective, c'est naître dans ce monde pour finir notre vie, ou continuer, pardon, notre vie, dans le royaume de Dieu là-haut. Et c'était cela, notre devenir. Et il y avait donc des changements, des transformations. Aujourd'hui, elles sont radicales de par le péché qui a tout détruit. Et du coup, il est nécessaire qu'il y ait une nouvelle naissance. Mais la destinée éternelle demeure la même. Hébreux 4, 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » Et ce sera tout. La parole de Dieu est vivante et efficace. Le terme « vivre » dans le grec signifie « vivre une vraie vie ». Donc elle n'est pas simplement vivante parce qu'elle serait animée de quelques battements de cœur pour le cœur ou autre. Elle est vivante parce qu'elle est la vie. Et elle est efficace. Le terme grec utilisé, c'est « energes », que l'on retrouve dans « energeia » et « énergie ». Parce qu'il y a là la puissance de Dieu en action. C'est la signification du reste du mot énergie. J'ai même vérifié hier sur Internet l'énergie. Alors vous avez tous les sites scientifiques qui sortent avec les énergies cosmiques et puis tout et tout. Et tout le monde dit la même chose, vient du grec énergie, force en action. Et je me suis dit, mais c'est ça Seigneur, c'est toi l'acteur. C'est toi qui es à l'origine de tout, l'énergie de l'univers. Alors je me rappelle les cours de physique et de thermodynamique où on nous expliquait beaucoup de choses. Et moi, je me disais, mais ce sont bien pour certaines des théories. Après, il faut qu'elles se vérifient si elles sont justes pour qu'elles puissent servir de base dans les calculs et autres. Mais c'est toi. Tu es l'énergie de l'univers. Tu es la vie. Tout vient de toi. Et ce terme grec est très précis. Ça signifie... par ce qui est fait à la main. Et cette énergie, cette efficacité de la parole de Dieu, elle est la signature de la main de Dieu, la signature du doigt de Dieu, que l'on trouve partout du reste, dans toute la création, de la terre, des cieux, l'univers, des animaux, et qui se termine avec le chef-d'œuvre, l'être humain, qui, lui, est fait à l'image de Dieu. Et on retrouve la main de Dieu qui est agissante dans ce domaine-là. Alors, je vais vous lire quelques petites choses que j'ai prises sur Internet hier à ce sujet. L'une des observations les plus brillantes d'Albert Einstein fut de découvrir que la matière et l'énergie sont en fait différentes formes d'une seule et même chose. Celui-ci affirma que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite. Celle-ci est simplement convertie d'une forme à l'autre. On croit à tort que la célèbre équation d'Einstein, vous connaissez, E égale mc2, m étant la masse, c la célérité, la vitesse donc au carré, signifie matière convertie en énergie. Mais ce qu'elle signifie réellement, c'est que la matière est énergie. Et nous, on distingue trop les choses, on sépare trop les choses. Alors, je vais reprendre une phrase, et quand je verrai M. Beauvert, ça va lui plaire. La physique quantique, une branche de la physique qui étudie les phénomènes physiques à l'échelle microscopique, stipule que tout dans l'univers est composé d'énergie. La physique quantique nous a démontré à maintes reprises que lorsque nous passons à l'échelle moléculaire, de l'échelle moléculaire à l'échelle atomique, encore plus petit, l'atome donc, Nous pouvons observer clairement que les plus petites particules observables sont composées d'énergie pure et qu'à ce niveau, tout vibre. En tant qu'être humain, nous sommes composés des mêmes éléments que tout le reste de l'univers. Tout phénomène naturel comme l'électricité, la gravité, le magnétisme avec les aimants, hein, la lumière, la chaleur, pour nommer que ceux-ci, sont originaires de l'énergie cosmique, la source de toute activité. Cette puissante force est l'essence de l'existence, de la conscience et à l'origine de tous les êtres dans l'univers, de tous les plans d'existence et tous les phénomènes. Tous les êtres naissent de l'énergie cosmique et vivent grâce et par elle. Et quand ils meurent, leur essence individuelle se dissout et réintègre l'univers. Vous comprenez que ce n'est pas des chrétiens qui ont écrit ça. Mais je me suis dit, il y a quand même une ressemblance avec des affirmations de la parole de Dieu. Voilà. Alors on va regarder la parole de Dieu ce matin comme étant cette énergie que Dieu nous donne pour qu'il y ait les changements dans nos vies. Et cette introduction était simplement là pour montrer que des grands phénomènes jusqu'à la physique quantique, jusqu'à l'atome, il y a de l'énergie. Mais d'où vient-elle ? D'où vient-elle ? Mais tout vient de la parole de Dieu, parce qu'elle est vivante et efficace. Elle est l'énergie. Ce que d'aucuns appellent l'énergie cosmique, on l'a entre les mains. J'oserais dire en introduction, et ce sera peut-être même la conclusion, attention, ça peut exploser. Ça peut changer. Tout peut changer dans la vie de n'importe qui à cause de la puissance de la parole de Dieu. Elle n'est pas simplement des mots, elle était au commencement. Elle était au commencement. Alors là, je vais demander à la projectionniste de projeter quelques textes de la Bible. Alors, je fais juste une parenthèse. Il y a un chrétien, un professeur d'histoire biblique, réputé donc aux États-Unis il y a longtemps. Il a réécrit la Bible dans l'ordre chronologique des événements. Ça s'appelle la Bible chronologique. En fait, ce sont tous les passages les mêmes, mais reconstitués sous forme de chronologie. Et au commencement, eh bien, on commence dans l'évangile de Jean. Alors, le fichier, c'est un fichier PDF qui est très très long, il peut s'acheter aujourd'hui, j'ai vérifié hier sur Internet, ça vaut une vingtaine d'euros. Et c'est très très intéressant, ça peut être même un moyen différent de relire la Bible de manière chronologique. Alors, le fichier est sur l'ordinateur, tous ceux qui voudraient le voir, vous pourrez le voir tout à l'heure. Et là, on va juste projeter quelques extraits, la première page de la Bible chronologique. Bon, déjà, c'est visible sur l'ordinateur. Alors, je vous fais la lecture. Le premier texte, dans l'ordre chronologique de la Bible, il est dans Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et c'est, chronologiquement, le point de départ de tout, la parole. Tout a été fait par elle et pour elle. De là, on passe de suite dans le psaume 90. Ah ben voilà.
Avant que les montagnes fussent créées, que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Micro.
Ah. Il est mal placé parce que. Voilà. Donc, avant que les montagnes fussent créées, pour le deuxième texte dans le psaume 90, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ensuite, on va au livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà. Et de suite après, si on peut faire dérouler, il y a la chute de Satan, tu étais en Éden, comme on l'a déjà médité, mais on ne va pas parler de lui ce matin. Voilà. C'est simplement pour vous dire que chronologiquement, l'acte créateur vient après le don de la parole. Au commencement, Dieu. Au commencement, la parole de Dieu. Et tout a été fait. Chronologiquement, tout découle de là. C'est pour cela que la parole de Dieu, et on va arrêter s'il vous plaît, la parole de Dieu vient d'en haut. Elle est esprit et vie. C'est Jésus qui le dira lui-même dans Jean chapitre 6, verset 63. Elle vient d'en haut. elle est esprit et vie. Quand on le lit dans l'évangile de Jean, on n'a pas l'impression de la dimension que cela normalement révèle, relève. Mais elle, cette affirmation du Seigneur révèle la dimension de la parole. Elle est esprit et vie. Ce ne sont pas des mots. Aujourd'hui, entre nos mains, nous avons des mots. Mais la parole n'est pas des mots. Elle est esprit et vie. Vous êtes d'en bas, dira Jésus, moi, je suis d'en haut. D'aucuns ont parlé d'énergie cosmique, mais nous savons, on va enlever le terme cosmique et on va traduire le terme énergie. Cette puissance en action, c'est Dieu et c'est en haut. C'est le lieu de la présence de Dieu. Vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Et je suis venu vous donner ce qui vient d'en haut. Et comme à l'origine de la création de la terre et de l'homme, à cause de la parole, tout a été fait, que la lumière soit. Et la lumière fut. Il a pris de la poussière de la terre et il a créé l'être humain à son image, à sa ressemblance. Eh bien, de la même manière, il est venu d'en haut jusqu'en bas pour nous donner au travers de sa parole tout ce dont nous avons besoin pour changer nos vies aujourd'hui. Lazare est sorti du tombeau. C'est aussi puissant que la lumière soit et que la lumière fut. Parce que les médecins vous diront le phénomène de dégradation corporelle dans lequel il était déjà engagé et qui a fait dire à sa sœur, il sent déjà, ramener à la vie quelqu'un dont le processus de dégradation physique et chimique, tout ce que l'on veut avec, est enclenché. Mais c'est un miracle extraordinaire qui est inexplicable. Il s'adresse à la veuve de Naïn et l'enfant se relève. Il traverse le lac de Génézareth et voilà un démoniaque qui vient se jeter à ses pieds, possédé de X démons. Il est délivré. Il vient d'en haut pour apporter ce qui est en haut, l'apporter en bas dans nos vies. Et ça va s'appliquer dans tous les domaines de notre existence. Et chaque fois, c'est comme un clin d'œil miraculeux de la création, de la puissance créatrice. Même dans les noces de Cana, l'eau est changée en vin. Mais j'oserais dire... L'eau ne peut pas être changée autrement qu'en vin et qu'en bon vin. Déjà vieux, etc., qui a du goût, parce que c'est comme cela l'acte créateur. Il n'y avait rien, d'un seul coup, il y a la terre et tous les scientifiques aujourd'hui vous disent « elle a tel âge ». Eh oui, mais vos moyens de mesure ne sont pas capables d'intégrer un paramètre qui est le paramètre de la foi, qui est le paramètre spirituel. Et ce paramètre, il échappe, les machines perdent la tête avec ça. Même les meilleurs ordinateurs n'arrivent pas à intégrer cette valeur. Jacques dira, toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais c'est tellement évident. Le Père des Lumières, mais il ne peut pas être appelé autrement que comme cela, il est la lumière. Il est l'origine de la vie. Il est l'origine de la lumière. Tout vient de lui. Et tout ce qui vient de lui est plus puissant que ce qui, par exemple, nous vient du soleil. Le Père des Lumières. Rendez compte que quand je reçois quelque chose qui vient d'en haut, c'est frappé de excellent, de bon, de puissant, de capable de tout changer dans ma vie. Demandez le pardon de vos péchés, vous allez voir le résultat. Demandez la grâce de Dieu, vous allez voir le résultat. Demandez un nouveau cœur, de nouvelles pensées, vous allez voir le résultat. Demandez l'intervention du Seigneur dans quelque situation que ce soit, vous verrez le résultat. C'est frappé d'excellent, de puissant. C'est Dieu, il est ainsi. Et la parole a été faite chair. Quelle grâce. Et nous l'avons contemplée. Elle n'a pas pris l'apparition de manière à frapper les regards, parce que c'était tout autre chose que Dieu voulait frapper. C'était les cœurs et les esprits. Et tous ceux qui se sont approchés de Jésus ont été frappés, jusqu'à dire « tu as les paroles de la vie éternelle ». Et peut-être même que Pierre, en le disant, ne mesurait pas ce qu'il était en train de dire. Les paroles de la vie éternelle sont en toi. Elles subsistent éternellement, dira le prophète Ésaïe. Alors, on n'est pas surpris de voir que par l'action de l'Esprit, et il ne peut pas en être autrement que par l'action de l'Esprit, qu'un homme, en l'occurrence le capitaine de la Légion romaine, s'adressant au Seigneur et qui a compris un principe, il lui dit « dis un mot ». Mon serviteur, il est guéri. Il a compris d'une certaine manière, par l'action de l'Esprit, l'importance de la parole de Dieu. L'importance et la puissance de ce qui sort de la bouche du Seigneur Jésus, qui est d'en haut et qui est venu en bas, parce que la parole a été faite chair. Alors la parole en moi, elle est lumière. Parce que en haut, c'est la lumière. Il est le Père des lumières. Et par sa parole, il vient mettre la lumière dans ma vie. Et quand les uns et les autres, nous avons donné notre cœur au Seigneur, il y a eu un éclairage puissant de notre vie qui ne consistait pas à montrer ce qui n'allait pas. Ça, c'est un autre effet. Mais un éclairage puissant qui consistait à nous révéler pourquoi on était là. Qui nous avait créés? Pour quelle perspective de vie nous étions sur cette terre? Quel éclairage! Mais ça a transformé nos vies. Celui qui était déprimé, il est sorti de sa dépression. Celui qui avait même des pensées de suicide, il a compris que ce n'était plus du tout la solution de sa vie. Il y avait une toute autre solution, bien meilleure, pour changer son devenir. Cette lumière, elle est sur mon sentier. Maintenant, j'ai un éclairage, je sais où je vais. C'est comme un repère dans ma vie. Quand on est perdu, c'est parce qu'on n'a pas de repère. Et on tourne en rond, ou on va de droite et de gauche. Mais maintenant, j'ai cette lumière. C'est le phare dans ma vie. C'est l'éclairage de Dieu, c'est l'étoile vers laquelle je sais que je me dirige. Voilà. C'est ce que le Seigneur a placé, que la lumière soit, dès le départ. Et lui, il habite une lumière inaccessible. Et il est lumière. La parole, elle est une lampe. Et la lampe a une autre vocation, c'est qu'elle va éclairer à mes pieds, puis elle va éclairer autour de moi. Elle va être mon guide jour et nuit. Et elle a pour vertu de faire apparaître l'invisible. C'est la lampe de Dieu. Aujourd'hui, on a des lumières qui sont capables de faire apparaître certaines choses. Mais la parole de Dieu est capable de faire apparaître l'invisible, est capable de me donner la sérénité dont j'ai besoin, les réponses dont j'ai besoin. Pourquoi tu t'affoles? Regarde autour sur les montagnes et vois l'armée de l'Éternel. Dieu t'éclaire et Dieu te montre la présence de ses anges envoyés pour prendre soin de toi, te protéger. Ne crains rien. Mais ce n'est pas une lampe d'ici-bas qui pourra faire apparaître cela, c'est la lampe de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est capable d'éclairer cela. Alors vous comprenez qu'avec une lumière pareille et une lampe pareille, forcément dans ma vie, tout ce qui ne va pas va apparaître, comme si je passais au scanner. Mais la finalité, elle est bonne. C'est que le Seigneur va pouvoir me dire, parce que vous et moi, quand on passe un scanner, il faut quand même que quelqu'un nous l'interprète, le résultat. Eh bien, voilà ça ce que c'est, voilà ça ce que c'est, voilà ça ce qu'il faudrait, que ça ne soit plus, faut que ça disparaisse. Voilà, ça c'est lié à ce qui s'est passé dans ta vie, mais je vais transformer tout cela, tu es d'accord? Oui. Vous voulez prendre le traitement? Oui. Vous voulez la bénédiction? Oui. Vous voulez la guérison? Oui. Vous voulez la transformation? Oui. Et quand vous dites oui au médecin, eh bien, il vous prescrit l'ordonnance, vous allez prendre les médicaments afin que les choses changent. Et au scanner d'après, on va vérifier que les choses ont changé. Eh bien moi, je prends la parole de Dieu et parce que j'ai dit oui, sans même m'en rendre compte, je vais me donner les moyens des transformations dans ma vie au plus profond de mon être, jusque au niveau de la physique quantique pour le coup, jusque dans le domaine atomique de ma vie. Combien ont été guéris de maladies spirituelles, génétiques, malformation ou autre, une intervention de Dieu extraordinaire. Ta parole, c'est une parole prophétique qui est comme une lampe, dira l'apôtre Pierre. Et on devrait prendre garde à la parole prophétique, cette parole qui vient de Dieu. Et elle est une lampe à mes pieds, c'est pour mon quotidien. Voilà ce qu'est la parole de Dieu. La parole, elle est semence. Elle vient d'en haut, elle est placée en terre. Elle est porteuse de vie. Mais elle n'a aucun défaut en elle. À la différence des semences qui existent autour de nous pour toutes les dimensions de vie, qu'elles soient de vie animale ou alors de vie végétale, la parole de Dieu, elle est porteuse de vie parfaitement. elle est frappée de sainteté. Vous prenez quelque chose de saint. Aujourd'hui, on met de plus en plus en avant le bio pour essayer de manger mieux. Mais là, nous avons la nourriture parfaite, la nourriture par excellence qui est capable de régénérer toutes nos cellules. Alors, cette semence doit être mise dans un seul endroit pour qu'elle porte le fruit qui est contenu en elle. C'est notre cœur. Si elle est mise ailleurs, elle ne portera pas le même effet. Ça ne fera pas le même effet. Elle peut être mise dans nos pensées, et je pense à la parole de Dieu. Elle peut être mise sur la table, et je vais lire un bon livre, parce que c'est quand même un bon livre, il faut l'avouer. Mais elle ne portera pas l'effet escompté. Et peut-être qu'au bout d'un certain temps, je vais dire, mais il n'y a quand même pas des choses qui ont changé tant que ça dans ma vie. On est d'accord. Vous prenez le traitement ? Ben non, il est sur la table à la maison. Pardon, vous pouvez me répéter ? Mais ça coûte une fortune. Il y a aujourd'hui des médicaments qui coûtent une fortune. Et vous le laissez sur la table à la maison ? Je n'oserais même pas vous parler du prix de la parole. Elle n'a pas de prix. Même quand elle a été faite chère, et surtout quand elle a été faite chère, il était démontré complètement qu'elle était hors de prix. Ça ne pouvait être qu'un don. Alors on vous donne le médicament, on vous donne la parole. C'est la semence qui est la parole de Dieu. Elle a une capacité de faire que celui qui était pécheur, qui était né dans le péché, ne pratique plus le péché. À cause de la semence qui est la parole de Dieu qui demeure en lui. Celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché. À cause de la semence qui est en lui, à cause de la parole de Dieu qui est en lui. Alors, cette semaine, qui d'entre nous a péché ? Ne répondez pas. Eh bien, la semaine prochaine, hors de péché, sans péché. C'est possible. C'est possible. Elle est eau, la base de la vie. Elle désaltère. Alors là, j'ai pris aussi quelques références. Et on le comprend, finalement, c'est tellement cohérent. Le corps humain est constitué majoritairement d'eau. Alors, un corps humain d'un adulte sain et de corpulence normale, c'est-à-dire 70 kilos, contient environ 56 à 60% d'eau, soit environ 40 litres d'eau. Donc, si vous voulez prendre la mesure pour quelqu'un qui fait 70 kilos de ce que vous représentez en eau, prenez deux jerricanes de 20 litres et vous dites, c'est ça, voilà ce que je suis. Par contre, ce qui est surprenant, c'est que la part de l'eau dans le corps humain diminue avec l'âge. Le fœtus, 97% d'eau. Le nouveau-né, 80%. La personne âgée, 45%. C'est pour ça que peut-être avec le temps, on se sèche un petit peu. Voilà. 80% d'eau dans le sang, le cœur, les reins, le muscle, la peau, le cerveau. Moins de 2% dans l'ivoire des dents. Et 75% dans les muscles. Dans le règne animal, la méduse est faite d'eau à 95%. Les insectes, comme la fourmi, n'en renferment que 10%. Donc, finalement, il y a de l'eau partout. Il paraît qu'on a découvert de nouvelles planètes où il y aurait de l'eau. Elle est. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. La base de la vie, c'est l'eau. C'est ce qui vient de Dieu. Et elle donne la vie. C'est ce qui est écrit dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, Apocalypse 22, 17. L'eau de la vie. Voilà. Et même Pierre dira, et c'est hier que j'ai ouvert les yeux là-dessus, d'aucuns disent que les choses ne se feront pas, mais ils oublient que la terre est tirée de l'eau et qu'elle est formée au moyen de l'eau. 1 Pierre 3,5. La terre est tirée de l'eau et elle est formée au moyen de l'eau. Cette eau qui purifie, cette eau qui lave, c'est l'eau de la parole de Dieu, dira l'apôtre Paul aux Éphésiens. Et elle est capable de nous purifier, de nous désaltérer, de nous laver de l'extérieur à l'intérieur, de l'intérieur à l'extérieur. Ce que l'eau d'ici-bas n'est pas capable de faire, l'eau de la parole de Dieu est capable de le faire. Vous voulez être purifié de votre vie, d'une vie de péché ? La parole de Dieu va laver. Et on a vu des hommes et des femmes qui avaient une vie de misère avant de rencontrer le Seigneur. Et ils ont été lavés, transformés par la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est la loi. Elle règle tout. Elle régit les lois physiques. La tempête, il lui parle, s'arrête. C'est elle qui est la référence. Elle régit les lois spirituelles. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'y a aucun mérite, c'est la loi. C'est comme ça. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. De temps en temps, on est complètement à l'envers à l'intérieur. Comment faire la part des choses ? Lisez la parole de Dieu et vous verrez qu'elle est, elle est la lumière, elle est la lampe, elle est la semence, elle est l'eau, elle est la loi. C'est elle qui va dire. Et quand votre cœur vous condamnerait, Dieu est plus grand que votre cœur. Et si le Seigneur a dit « Je te pardonne », oubliez ce qu'il peut y avoir comme résidu dans votre cœur de condamnation, peut-être à juste titre et de ce que les autres viendraient vous rappeler. Je suis pardonné, je suis purifié. C'est la loi de l'esprit de vie, dira Paul aux Romains, qui m'a affranchi. Elle est la loi. Et puis je termine, elle est l'épée. Le scalpel par excellence, pour séparer les choses. C'est l'épée de l'esprit qui ne peut être maniée que par l'esprit. C'est la parole de Dieu. Elle est pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit. Et là, de temps en temps, j'ai besoin de dire, Seigneur, vas-y. Parce que je ne sais plus comment séparer les choses à l'intérieur. Entre ce que je crois, ce que je pense, ce que l'on m'a dit, ce que j'ai fait, etc. C'est un sac de nœuds dans mon cœur, dans mon âme. Je ne suis pas bien du tout, Seigneur, vas-y. Et dites-le au Seigneur, vas-y, fais ton œuvre. Et vous le verrez le faire sans douleur, sans anesthésie, c'est ça qui est extraordinaire, par le simple effet de la parole. Et tac, 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 des choses vont être séparées. Celles qui ne sont pas bonnes vont être spirituellement, j'allais dire naturellement, mais naturellement dans la dimension spirituelle des choses, naturellement évacuées. Et tout va se mettre à fonctionner normalement. Et on a vu comme cela des couples détruits par ce qu'avaient fait l'un et l'autre, pour le coup 50-50. Et par l'effet de la parole de Dieu, tout se reconstruire. Jusqu'à être heureux, jusqu'à servir le Seigneur. On a des exemples autour de nous. C'est l'effet de la parole de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, il est parlé de cet ange de l'Éternel qui vient et dont une épée sortait de la bouche. Alors je termine, la parole... Elle a une dimension d'éternité. Psaume 147, 15, il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec rapidité. À la limite, vaut mieux, pour ne pas être transformé, éviter la parole. Parce que si vous recevez la parole, vous prenez un drôle de coup. Le coup qui vous réveille. Le coup qui vous transforme. Le coup qui fait d'un Jacob un Israël. C'est la marque de Dieu. Et il envoie ses ordres sur la terre. Je veux qu'il soit béni. Et attention, c'est parti. La volonté de Dieu. Et quand Dieu veut quelque chose, même l'ennemi de nos âmes n'a pas pu arriver au bout du salut de notre âme. Il a voulu le salut de notre âme, il a accompli le salut de notre âme. Et pour en faire la démonstration indiscutable, le premier qui rentre, c'est le brigand sur la croix. À partir de là, tout est possible pour tout le monde. Il a voulu la bénédiction, il a voulu le salut, il en a payé le prix, il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec rapidité. Lisez-la. Et elle est une bonne nouvelle. Nous annonçons la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Et on ne peut pas annoncer autre chose. Elle est accompagnée de grâce, elle est assaisonnée de sel. Elle va faire une œuvre dans notre vie. Et le psalmiste dira, elle est douce à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Alors je m'arrête. C'est un acte de foi de se confier en elle. Prenez la parole de Dieu. Elle est vivante, elle est efficace. Lisez-la, mettez-la là où il faut, dans votre cœur, et laissez faire. Gloire à toi.